Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme, ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leur victoire comme leurs doutes. Parole de femme.
Charlotte de Fayet, vous faites partie de celles qui savent sentir les occasions et saisir les opportunités. Alors que vous aviez fait des études de marketing, que votre carrière était lancée au sein de grosses sociétés comme Danone ou L'Oréal, il a suffi d'une visite anodine dans une boutique, Molly, pour que votre vie professionnelle connaisse un véritable séisme. Vous n'hésitez pas à repartir de zéro et vous vous lancez dans une nouvelle aventure sans aucun lien avec ce que vous faisiez jusque-là. L'histoire vous donne raison, puisque Molly, la marque que vous aviez reprise il y a presque 10 ans, connaît aujourd'hui un incroyable succès. Vous avez réussi ce pari fou, faire de la maille un vêtement chic et mode. Charlotte, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut dire que la mode a toujours fait partie de votre vie ?
Je crois que la mode a toujours fait partie de ma vie, parce que ma mère avait un bureau de presse qui avait comme clients des marques comme l'OEV et d'autres, du comité Colbert notamment, et j'ai toujours vu ma mère partir dans des jupes l'OEV en cuir turquoise, et voilà, je pense que j'ai été infusée doucement par cette vision d'une femme habillée, moderne et colorée, et donc j'ai toujours été curieuse de la mode. Elle m'avait emmenée d'ailleurs une fois à un défilé de Castelbajac, qui a été un de ses clients à un petit moment. Et je me souviens que j'en ai gardé un souvenir émerveillé en me disant « mais ces femmes sont étonnantes, elles ont du pouvoir, elles ont du style, elles ont de l'impact ». Et ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressée.
Avant de vous lancer dans l'aventure Molly, est-ce que vous amusiez dans votre travail ? Est-ce que vous aimiez ce que vous faisiez ?
Alors oui, j'ai eu deux expériences importantes dans ma carrière dont vous avez parlé. Chez Danone, j'étais au marketing et j'ai beaucoup travaillé les études conso. J'ai passé beaucoup de temps derrière des vitres sans teint à écouter des clientes et des clients parler de leur perception de marque et j'ai toujours adoré ça. Et chez L'Oréal, j'ai bossé sur une marque qui s'appelle Kiehl's qui faisait du retail. Et j'ai ouvert, je pense, 6 boutiques. Et j'ai adoré aussi cette aventure où on se retrouvait à 4h du matin aux Galeries Lafayette pour ouvrir le stand, et ce côté très pragmatique terrain aussi m'a beaucoup plu. Donc j'ai eu 2 expériences qui m'ont énormément amusée.
C'est finalement le hasard qui a mis Molly sur votre route en 2014. Vous entrez dans la boutique et vous décidez de l'acheter. C'est un coup de foudre, c'est un coup de folie ?
Alors les deux. Coup de foudre parce que j'adorais la marque. Je l'achetais déjà pour la layette que j'aimais plus que tout pour les naissances des bébés de mes amis. Coup de folie, en fait quand j'ai poussé la porte, je ne pensais pas la racheter pour être honnête. Je voulais aider la marque à se développer et j'ai découvert qu'il n'y avait plus d'équipe, plus personne. Et donc coup de folie, ça a été effectivement de la reprendre. Mais c'était une folie mesurée parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas prendre trop de risques. Et du coup j'ai été très doucement. J'ai repris une boutique, puis une deuxième. J'ai démarré avec une petite collection, avec une styliste en freelance, avec mon ancien stagiaire de chez L'Oréal, à qui j'ai dit « viens me donner un coup de main ». Et j'ai pris une jeune Italienne en Erasmus pour m'aider à parler aux Italiens qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Donc je suis partie avec une toute petite équipe, avec des fonds personnels, des fonds familiaux. Et voilà, donc c'était une folie mesurée.
Vous vous sentiez déjà l'âme d'une entrepreneuse ? Où vous avez découvert une facette de votre personnalité que vous ignoriez ?
Chez Kiehl's, je crois que j'ai découvert un peu un côté entrepreneur, parce que c'était une marque un peu particulière, en fait, au sein de l'entreprise, parce qu'on était une toute petite équipe, avec beaucoup moins de réunions, etc., que sur les grosses marques du pôle luxe. On m'avait aussi confié le lancement d'une brosse pour le visage, et j'ai tout monté from scratch, ce qui a commencé à me titiller, à me donner envie, en fait, de me lancer pour moi.
Vous étiez dans quel état d'esprit devant une entreprise en déclin qu'il fallait redynamiser ?
Alors, la chance que j'ai eu, c'est que j'ai récupéré entre guillemets une marque qui avait un très joli logo, quelques ateliers mais qui n'étaient pas les siens, qui avait ce savoir-faire extraordinaire mais il n'y avait plus d'équipe. Voilà, je suis partie avec une page blanche et ça c'est plutôt facile j'ai envie de dire parce que je n'ai pas hérité en fait d'une grosse structure qu'il fallait redresser. La structure n'existait plus, j'ai repris 2 boutiques, les vendeuses voulaient partir, sont parties et donc j'ai pu remettre en place en fait tout le nouveau Molly.
C'est pas un peu compliqué de se faire une place dans la mode quand on est une jeune marque indépendante ?
C'est un monde terriblement concurrentiel. À l'époque, Instagram n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui. À l'époque, très peu de marques de luxe vendaient en ligne. Je crois que la seule boutique en ligne, c'était la boutique de Saint-Laurent. Et en fait, c'était un peu plus facile, je pense, à l'époque, parce que il y avait moins cette omniprésence partout des réseaux, etc. Donc, je suis allée plus confiante. Et ce qui est dur, effectivement, c'est de se lancer dans cette industrie qui est personne ne vous attend. Mais je sentais que j'avais quand même une jolie marque dans les mains et que elle parlerait peut-être pas à tout le monde, mais qu'il y avait certainement certaines personnes avec qui elle allait parler.
Alors, qu'est-ce qui vous a séduit sur le positionnement de cette marque?
En fait, ce que j'aimais, c'est que c'était une marque qui avait une histoire, qui avait un savoir-faire, qui était très spécialiste. Et j'ai aimé qu'il y ait un cadre à la base. J'avais une vision de cette marque. Je l'ai beaucoup partagée autour de moi. J'interrogeais très régulièrement des femmes qui connaissaient la marque, à qui j'expliquais ce que je voulais faire. J'ai eu quelques anges gardiens dans cette aventure. Une fille d'ailleurs que j'ai rencontrée en prépa, qui a fait le studio Berceau après son école de commerce et qui est quelqu'un que je consulte régulièrement, qui m'a donné toujours plein de conseils. C'est elle qui m'a fait rencontrer la styliste qu'elle avait elle-même rencontrée au studio Berceau, qui était une spécialiste de la maille. C'est elle qui m'a dit « Attention, la maille, c'est particulier, prends une experte », parce que moi, j'y connaissais rien. Et effectivement, ce chemin s'est fait avec beaucoup d'écoute et d'attention et de bons conseils.
Vous avez dû faire une formation à l'Institut français de la mode. Ça fait quoi de découvrir un nouveau métier?
J'ai découvert, j'étais fan de la maille, ça je ne le savais pas. J'y suis allée, en fait c'était une formation de 3 jours pour comprendre, mais ne serait-ce que le champ lexical de la maille, parce que quand on parle de machine à tricoter, on parle de jauge, de fibres, de fils, de laine cardée, de coton mercerisé, tous ces mots-là je ne les connaissais pas du tout. Et en fait je me disais, il faut que j'ai l'air crédible quand je vais aller voir les filateurs dans les salons du fil, quand je vais aller voir les ateliers, il faut que je comprenne de quoi on me parle. Et j'ai découvert avec la styliste, quand on a fait la tournée de tous les ateliers qu'on pouvait, avec lesquels on voulait travailler, j'ai découvert un monde de passionnés qui m'ont tout appris.
Quel est votre moment préféré dans le processus de création?
Ce que j'adore quand on est avec la styliste, c'est quand on a des envies de matière et qu'on essaie de les traduire en maille. Parce que c'est la particularité de Molly, c'est que c'est pas de la maille comme on a l'habitude de la voir, c'est-à-dire de la maille jersey en cachemire dans lesquelles on fait des jolies formes et des jolies couleurs. Ça, c'est une grosse part de la proposition maille aujourd'hui. Molly, on est vraiment dans le tricot. Et le tricot, c'est des points de tricot, c'est des détails et de la couleur, beaucoup. Et j'adore quand on est toutes les deux en train de se dire, tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une maille origami, une maille zélige, une maille astrakhan, une maille ceci, cela. Et on part vraiment d'envie de matière. Elle briefe, elle, les ateliers. Et quand on reçoit les FedEx, où on ouvre et on voit comment ils ont interprété ça, c'est un grand moment. C'est toujours très amusant. Parce qu'ils font plein de tests, c'est de la R&D, en fait. On découvre et on a des coups de cœur ou alors des gros rejets et on avance comme ça.
Justement, qu'est-ce qui nourrit votre créativité?
Tout. C'est là, par exemple, pour l'été prochain, je suis tombée sur une photo d'une femme qui tenait 4 paniers de couleurs avec des très belles couleurs que j'ai adorées. Donc, je lui ai dit, tiens, on va essayer de faire une jupe comme ça et de travailler avec ces couleurs-là. Et c'est des choses aussi bêtes qu'une photo qu'on peut voir, qu'une exposition pour les couleurs, que je sens que j'ai été voir l'exposition d'Alice Neal et j'ai adoré la façon dont elle faisait poser les femmes et les hommes dans ses tableaux. Ils ont toujours une attitude, une façon de se tenir sur les chaises que je trouvais inspirante. Et ça donne aussi des idées pour de l'attitude, pour de la photo, etc. Donc tout est sujet à trouver des idées pour créer.
Quel impact a eu l'aventure Molly sur votre personnalité, sur votre vie?
Molly, c'est mon 4e enfant. Ça prend une place énorme dans ma vie et dans ma vie de famille aussi. Ça m'a, je pense, donné plus confiance en moi. Ça m'a révélé une partie très créative que je pensais pas avoir. Mais on est vraiment à deux et on travaille à 4 mains avec la styliste.
Votre travail et votre talent ont rapidement payé puisque vous avez des clientes comme Sofia Coppola, Léa Seydoux. Ça vous fait quoi de voir vos vêtements portés par de telles célébrités?
Alors, Sofia Coppola, c'est une anecdote assez amusante, parce qu'en fait, quand j'ai lancé ce 3e chapitre de Molly, qui est la femme Molly, je me suis fait un mood board, et je me suis dit, tiens, qui serait l'égérie Molly si demain j'avais un chèque en blanc et que je pouvais m'offrir l'égérie Molly? Et c'était Sofia Coppola. Et un an et quelques après l'ouverture de la boutique, elle est venue, elle habitait encore à Paris à l'époque, pas loin d'ailleurs de la boutique Boulevard Saint-Germain, elle est rentrée, elle a acheté plein de choses, elle est repartie. Et quand j'ai su ça, j'ai été subjuguée de bonheur, je me suis dit, ça y est, c'est assez achieved, parce que c'est une femme qui a accès à tout. qui est sursollicitée, qui est très discrète. J'aime énormément ce qu'elle fait en tant que travail personnel et j'aime sa façon de communiquer, et sa discrétion et son élégance. Enfin bref, j'aime tout. Et j'étais très contente de savoir qu'elle était cliente Molly. La petite anecdote que je raconte, c'est que 2 ans plus tard, son agent m'a envoyé un mail à l'équipe parce qu'elle voulait voyager, elle partait en voyage et on avait fait une combinaison en maille et elle voulait voyager dedans et on a retrouvé la combinaison qu'on lui a envoyée et elle m'a renvoyé un petit mot pour me remercier. Je me suis dit qu'elle était, en plus d'être inspirante, extrêmement délicate et bien élevée. Donc c'était un... Voilà. Après, les personnalités, je les vois pas, pour être tout à fait sincère, mais j'aime énormément de voir ces femmes que je croise dans la rue en Molly. Ça me fait très, très plaisir.
Et aujourd'hui, quelle personnalité vous rêveriez d'habiller?
Alors, pour être honnête, j'ai pas de rêve de personnalité que j'aimerais habiller. Plus j'habille des femmes qui ont besoin d'être habillées et confortables dans leurs vêtements, des femmes qui ont des agendas surchargés et des vies actives, je suis très heureuse de savoir que je les habille et j'ai envie d'en habiller encore plus, qu'elles comprennent la proposition Molly. Mais j'ai un petit clin d'œil à des femmes auxquelles je pense souvent, où je me dis, mais mon Dieu, ce qu'elles ont l'air mal dans leurs habits et pourtant, elles n'ont pas le choix. Ce sont les hôtesses de l'air Air France qui sont dans des vestes étriquées et des jupes étriquées. J'adorerais pouvoir leur proposer un ensemble Molly pour voyager.
Selon vous, à quoi ressemble la tenue idéale d'une femme en 2024?
Alors moi, je crois beaucoup au darwinisme dans le vêtement. D'ailleurs, quand on voit des films futuristes, en général, les hommes et les femmes sont habillés en combinaison, en maille, parce que c'est souple, parce que ça s'adapte à nos mouvements, à nos vies. Pour moi, Molly est complètement dans ces gènes-là. C'est-à-dire qu'on est dans des vêtements qui accompagnent nos vies plutôt que de nous contraindre. Et moi, je vois la femme en 2024 en total look Molly, soit avec un top et une jupe, soit un top et un pantalon. Et ce que j'adorerais, c'est qu'elle ait aussi des chaussures Molly que j'aimerais faire et un grand tote bag dans lequel elle puisse mettre toutes ses affaires, qu'il puisse se plier, qu'il puisse être emmené en voyage, etc.
Alors, on peut dire que vous êtes plus mode ou plus style?
C'est une histoire d'association, dans le fond. On fait une proposition avec Molly, mais après, à chaque femme de mettre ses chaussures, d'associer les couleurs comme elle l'entend. Le style, c'est tous les petits détails, c'est la façon de remonter les manches, d'ouvrir ou pas, de déboutonner un chemisier. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas la vraie réponse, mais on va dire les deux.
Charlotte, vous avez remporté le prix du public lors de la grande finale du prix Business with Attitude de Madame Figaro. Ça représente quoi pour vous?
Ce prix, ça a représenté beaucoup de joie et de fierté pour l'équipe, notamment. Il y avait 5 personnes dans le public de l'équipe. Quand j'ai reçu le prix et qu'on a été applaudis, on les applaudissait elles aussi. J'étais très contente de revenir avec ce prix pour montrer que le travail qu'on faisait de femmes, de passionnées, était reconnu par un prestigieux magazine.
En 2024, vous fêterez vos 10 ans à la tête de Molly. Vous les voyez comment les 10 prochaines années?
Ben, je les vois avec toujours une belle croissance, sans excitation, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de courir le monde. J'ai envie que les choses se fassent progressivement, naturellement, avec des belles rencontres qui donneront peut-être des belles collaborations. J'ai envie d'ouvrir un petit peu plus de boutiques, des petits écrins dans lesquels les femmes pourront découvrir en vrai les vêtements et qu'après elles puissent acheter en ligne, parce que c'est un vêtement très facile à acheter ensuite en ligne. J'aimerais que l'équipe qui est là soit toujours là. Ça sera le signe qu'elles sont heureuses et qu'elles sont toutes aussi passionnées que moi.
En parallèle de votre activité, vous êtes mère de 3 enfants. Eux aussi, ils aiment la mode. Ils aiment Molly.
Pas spécialement. Ça ne les intéresse pas encore. J'ai une fille qui a 13 ans qui commence un peu à me piquer des affaires. Mais et 2 garçons qui s'en fichent complètement. En revanche, je pense qu'ils aiment Molly parce qu'ils en sont fiers. Ils me pincent quand ils voient quelqu'un habillé en Molly. Ma fille reconnaît, mes garçons pas vraiment. Une anecdote, au mois de juin, j'avais beaucoup trop de choses à faire. J'ai loupé des rendez-vous, des sorties, etc. Donc j'ai eu un moment un peu dépité dans mon canapé un soir en disant bon, j'y arrive plus là, j'ai trop de choses. Je prenais le métro dans le mauvais sens. Enfin vraiment, le moment où on voit qu'on a trop de choses dans la tête. Et là, mon fils, donc je lui dis, tu sais, je crois que là, je suis submergée. Il me dit, mais maman, tu as remporté ce prix, il ne sait plus lequel, mais en tout cas, j'avais ramené la Coupe du Monde à la maison, pratiquement. Et il était tellement fier. Et c'est marrant, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce prix, même pour eux, enfants, ça a été Ils étaient très, très fiers, quoi. Ils ont 10 ans et 5 ans, donc je pense qu'ils ne savent pas ce qu'est le Madame Figaro, mais ils étaient quand même très très fiers pour moi.
Et pour le reste de la famille, vous êtes un peu devenue la styliste attitrée ?
Non, elles ont leur goût, elles sont très sponsors de Molly. J'aime beaucoup voir ce qu'elles choisissent, parce qu'elles ont des styles différents, et ça me rassure de me dire que je m'adresse à des femmes qui n'ont pas le même style que moi. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'elles me disent toujours, quand elles mettent du Molly, elles ont des compliments, et ça c'est mon plus grand, voilà, ma plus grande fierté.
Vous êtes assez discrète sur les réseaux sociaux. Vous faites attention à ne pas trop vous exposer ?
Molly ne porte pas mon nom. Je suis une étape dans la vie de cette marque qui a plus de 130 ans. Je ne cherche pas à exposer plus que ça qui je suis. Je suis fière d'exposer mon travail et d'exposer l'équipe plus que tout, même si elles sont moins friandes. Mais voilà, j'aime cette discrétion.
Quand vous ne travaillez pas, vous faites quoi pour vous changer les idées, pour décompresser ?
Évidemment, une des meilleures manières de décompresser, c'est de jouer avec ses enfants. On pense à autre chose. À la campagne, on fait beaucoup de vélo, donc on se balade. Les voyages aussi, on voyage beaucoup en famille. On a des bons moments familiaux. Je pense que c'est là qu'on est le plus... On décompresse le plus.
Chez Molly, quel a été le moment le plus difficile ?
Un des moments que j'ai trouvé le plus compliqué, c'est quand le Covid est arrivé, qu'il a fallu fermer les boutiques. Je me souviens que les 10 premiers jours, j'étais vraiment très, très, très perturbée, parce qu'on reste une petite équipe, une petite société, et que je me disais, mais toutes ces boutiques fermées, ces loyers, ces vendeuses, comment on fait ? Et je me souviens très bien de l'intervention de notre ministre de l'économie qui nous a dit « Vous serez aidés », ça a tout changé. Mais le avant était très très perturbant et très stressant.
Vous avez le souvenir d'une anecdote rigolote, par exemple en boutique ?
L'anecdote de Sofia Coppola, moi j'aimais quand même dans les moments les plus étonnants, parce que vraiment je l'avais punaisée dans ce moodboard un an avant, et qu'elle soit dans la boutique. Et d'ailleurs je me souviens de la vendeuse m'appelant en chuchotant, en disant « Il y a Sofia Coppola, qu'est-ce que je fais ?» J'ai dit « Mais ne fais rien ». Voilà, on la remerciera plus tard. Et voilà, c'était un joli moment.
Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière où vous avez douté, où vous avez eu envie d'abandonner, où la marche était trop haute ?
D'abandonner, non, parce qu'il n'y a jamais eu de signaux dramatiques obligeant à arrêter. Enfin, à partir du moment où une marque se développe de façon raisonnable, raisonnée, l'entreprise est saine financièrement. Après, oui, c'est dur, hein, l'entrepreneuriat, c'est le roller coaster, c'est des hauts et des bas, mais finalement, on retient plus le haut et la trajectoire de fond qui reste quand même une trajectoire qui monte.
Dans votre parcours, qu'est-ce qui vous rend la plus fière ?
Moi, la fierté, c'est quand je vois ces femmes que je croise dans la rue en Molly. Ça, je suis très contente. Ça me fait plaisir parce que je me dis, c'est pas la mode pour les mood boards et les photos, c'est la mode pour la vie et pour les femmes et pour. On est du côté des femmes. Voilà, et je me dis, c'est ça ma fierté, ça sert à certaines. Voilà.
Jusque-là, quel a été votre plus gros défi ?
Alors, le gros défi dans l'industrie, en tout cas vu le positionnement de la marque, c'est d'avoir des produits de belle qualité. C'est vrai que c'est un vrai défi parce que ça demande beaucoup de temps, c'est très exigeant, mais je veux être absolument que ce soit toujours parfait. Donc, c'est ça le défi, de tenir à cette image que la marque a.
Et aujourd'hui, quel est votre prochain Everest ?
Alors moi, j'aimerais beaucoup qu'on se développe aux États-Unis. Ça va être mon chantier des mois, des années à venir. C'est un marché très grand, avec des femmes très habituées à acheter en ligne. Il y a quelques endroits assez identifiés où les femmes peuvent comprendre ce qu'est la marque et devenir aussi des fans, comme on a ce fan club parisien, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Corée ou au Japon. Et je sais que le marché est grand et voilà, il a un vrai potentiel.
Vous avez un mantra qui vous guide au quotidien ?
Alors moi, la phrase de base que j'ai, c'est « qui ne tente rien n'a rien », donc faut tenter. Voilà, il n'y a pas de raison de ne pas essayer. C'est ce que je disais l'autre jour aux femmes qui hésitaient à postuler au prix. Je disais « mais en fait, il n'y a rien à perdre, donc allez-y hein. ».
Un de mes sujets de prédilection est l'automobile, donc je vous emmène dans mon univers le temps d'un instant. Dans votre métier, vous vous servez beaucoup de la voiture ?
Au quotidien, très peu, parce que j'habite pas loin des bureaux, donc je me déplace à pied. Quand j'ai des rendez-vous ailleurs dans Paris, je suis en vélo, et le train pour aller à la campagne le week-end, donc je limite beaucoup.
Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais en voiture ?
Alors, ce qui me quitte jamais, c'est mon téléphone. J'aime bien discuter en voiture, donc je mets mon kit main libre et je peux rentrer dans des bonnes discussions tout en conduisant.
Quel est votre meilleur souvenir automobile ?
Alors j'adore quand on va dans le sud de l'Italie voir les ateliers qui sont dans les Pouilles. On loue une petite voiture italienne et on est brinque-ballé sur les routes des Pouilles et c'est des très bons souvenirs.
À l'inverse, quel est votre pire moment en voiture ?
Quand j'étais petite, je pense que je suis pas la seule, j'ai un très mauvais souvenir de mon père qui fumait dans sa Renault 25 et ça sentait pas très bon.
Alors au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts ?
Je conduis peu dans la ville, donc je suis peu confrontée à l'agressivité qu'il peut y avoir dans des villes comme Paris au volant. Donc quand je roule, c'est plutôt pour des longs trajets sur des autoroutes, et là j'écoute des podcasts ou j'écoute de la musique. C'est plutôt des bons moments et je suis plutôt détendue.
Et pour finir, comme le veut la tradition de Paroles de Femmes, Charlotte, on part en road trip. Vous nous emmenez où ?
Alors, je vous emmène au nord de l'Argentine, dans la région de Salta, qui est une région magnifique, sur l'Altiplano. J'ai des souvenirs extraordinaires et voilà, c'est un vrai road trip. Le voyage, la voiture, la musique et les fenêtres ouvertes et le paysage autour de vous.
Charlotte, au revoir et un grand merci pour ce moment ultra stylé.
Merci à vous, Clémence.
C'était Paroles de Femmes, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leur victoire comme leurs doutes. Paroles de femmes.